Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, nous allons ce soir nous promener du côté de Pont-à-Mousson et plus précisément à l'abbaye des Prémontrés où a lieu actuellement et jusqu'au 7 juillet prochain une exposition intitulée « Instruments de musique de la tradition à l'insolite » et nous sommes accueillis par Marisa Defonde. Bonsoir Marisa.
Bonsoir.
Alors comment vous est venue cette idée d'exposition et ce parcours assez atypique dirons-nous ?
C'est une exposition qui en fait rend hommage au savoir-faire déjà de la région. On a voulu mettre en avant un premier partenariat avec le musée de Mirecourt à travers une belle sélection de violons originaux. Et en effet, c'est tissé au fil de nos rencontres l'idée de mettre en évidence en fait des instruments qui nous étaient insolites, alors soit par leur forme, par leur son, ou parce qu'aujourd'hui ils sont méconnus.
Alors, il y a eu le partenariat avec Mirecourt, il y a aussi un partenariat avec Jarny.
Oui, c'est ça, le musée de la musique mécanique et de la fête foraine à Conflans, en Jarnisie, voilà, qui nous a permis d'avoir des pièces prestigieuses et notamment un joli orgue limonaire qui peut être joué pendant les visites guidées.
Très bien. Alors, l'expo se décline en trois volets. L'expo, donc avec deux belles salles bien remplies de choses dont on va parler, des ateliers et des concerts.
Oui, on a voulu rythmer cette exposition par de la musique de tout style. Donc on avait commencé avec un partenariat avec la Cité de la Musique à Demes. Et puis nous finissons la clôture de l'expo avec un joli concert donné par Cédric Henriot, qui est musipontin et célèbre pianiste du monde entier.
Très bien. Alors, l'objectif de l'exposition ?
Alors, c'est de faire voyager les gens à travers différentes époques, puisqu'on peut partir au XVIIIe siècle avec les violons de Mirecourt, se promener au XIXe siècle avec la musique mécanique, et puis arriver au XXe siècle avec la musique électronique.
Voilà, alors, on se promène dans le temps, on se promène aussi sur tous les continents.
Oui, donc le point de départ, c'est Mirecourt. Ensuite, on peut élargir en partant en Asie, mais aussi aux États-Unis, qui a été une terre fertile aussi d'instruments électroniques.
Alors, immersion dans le temps, immersion dans le monde, et puis toutes sortes d'instruments.
Oui, on a des cordes frottées, des cordes frappées, des instruments à vent également, donc de la musique mécanique. Mais on a voulu aussi mettre en avant tout ce qui est instruments qui enregistrent et qui diffusent la musique.
Très bien, de la musique qu'on enregistre et qu'on diffuse, on va en écouter.
Thank you. C'était quelques-unes des 12 valses pour piano de Reynaldo Hahn.
Alors, en déambulant dans cette exposition, à Pont-à-Mousson, à l'abbaye des Prémontrés, on tombe dans une première salle sur des instruments que l'on voit rarement et que l'on entend encore plus rarement. Et ce sont pour certains même des prototypes. Alors, Marisa, vous pouvez nous parler un petit peu de tous ces instruments?
Oui, bien sûr. Dans une première vitrine, le musée de Mirecourt nous a permis de sélectionner des pièces un peu atypiques. Qui sortent de l'ordinaire vis-à-vis des formes du violon dont on a l'habitude depuis les formes du XVIIe siècle. Alors là, c'est un violon-guitare qui date du début du XIXe siècle. En fait, c'est un ingénieur dont la famille était luthier à Mirecourt, et il a eu envie de créer une acoustique différente, de créer vraiment quelque chose d'encore plus fort. Et c'est à ce moment-là qu'il a créé une forme de vague, je dirais, où les coins en fait n'existent plus. Et cela a permis de créer un instrument qui a eu pourtant une renommée au moment du moment où il a été breveté à l'Académie des Beaux-Arts. C'était extraordinaire. Il a même été joué devant Louis XVIII. Mais en fait, ça a été un échec commercial. Comme quoi, une bonne idée, après, n'est pas forcément signe de succès. Et puis, on a un autre violon qui est assez atypique parce qu'il est à double face. C'est un double violon alto. Et en fait, comment faire rentrer dans une seule pièce deux instruments qui sont différents, qui n'ont pas la même taille? C'est une sorte de chef-d'œuvre qui a été créé ici. Et donc, le fait est en fait qu'on ne peut pas vraiment le jouer. Sûrement peut-être debout en le posant sur la cuisse, on ne sait pas trop, mais c'est vraiment des exercices de fantaisie aussi de luthier qui, à force de faire toujours la même chose, essaye aussi de transcender la forme et de voir autre chose. Pour parler d'une autre section qui est dédiée à la musique plus populaire, là on a une vitrine qui est composée d'instruments qu'on connaît un petit peu mieux, comme la vielle à roue ou des épinettes des Vosges, mais il y a deux instruments qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Nous avons un monocorde de Joseph Pousseau. Alors en fait, c'est un créateur toulois qui a créé cet instrument à la fin du 19e siècle. Donc en fait, c'est une sorte de violon posé sur des pieds avec un clavier. Il n'y a qu'une seule corde, et en fait ça se joue avec donc la main sur le clavier et l'autre avec un archet. Et c'était plutôt un instrument pédagogique qui a eu un grand succès. Il y a eu plus de 1200 exemplaires qui ont rayonné en Europe. Il y en a même un qui est parti au Vatican. Mais pareil, ça a été un succès commercial pendant une vingtaine d'années, et puis après on n'en a plus entendu parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça nous paraît surprenant, cet instrument. Il y a également un organistrum qui est ici une recréation des années 70. C'est un instrument qui nous vient du Moyen-Âge et dont on n'avait plus la trace parce qu'il n'existait plus. On ne savait plus le son, sauf qu'on voyait des visuels sur les frontons de cathédrales, notamment celle de Saint-Jacques de Compostelle. Et donc c'est un luthier des années 70, Christian Rouault, qui va compiler plein d'informations sur les visuels pour recréer un instrument en trois dimensions. Et enfin, on connaît le son et on peut le jouer, donc cet instrument, mais à deux personnes, ce qui est aussi atypique. Donc voilà, c'est dans cette première salle d'exposition, donc qui est dédiée à tous les continents, à toutes les époques, il y a différentes manières d'appréhender la musique, également via des bornes en fait numériques qui permettent de connaître le son de certains instruments présentés en vitrine. Et il y a aussi toute une partie pédagogique qui est liée au savoir-faire de la lutherie de Mirecourt.
Thank you. Thank you.
C'était le duo pour violon et alto de Wolfgang Amadeus Mozart dans l'interprétation de Gérard Poulet au violon et Régis Pasquier à l'alto.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors toujours dans cette même salle d'exposition à Pont-à-Mousson à l'abbaye des Prémontrés, on voyage dans les continents avec des instruments qui viennent de Chine et du Japon, Marisa.
Oui, tout à fait. On a voulu ouvrir la musique traditionnelle aussi étrangère pour montrer que des instruments qui sont dans des civilisations traditionnelles, nous, peuvent nous paraître étranges, mais en fait font quand même écho à des instruments qu'on a chez nous sous une autre forme, un petit peu modifiée et avec des noms différents. Donc, en effet, dans cette vitrine dédiée à la Chine et au Japon, ce qu'on avait voulu mettre en avant, c'est donc une sitar, un modèle de sitar qui s'appelle Jinkin, et Guqin, pardon. Et cette sitar, donc, en fait, a aussi un modèle assez semblable au Japon, le koto. Et cette vitrine donc, met bien en avant les formes de ces instruments à cordes, les façons de jouer également à travers des estampes japonaises qui les représentent.
Très bien. Et puis alors, on se déplace un petit peu. Et là, on part en Asie du Sud.
Oui, en Asie du Sud, on a voulu aussi montrer toujours cette démarche que un instrument de pays à l'autre en fait avait des noms différents, mais des formes presque identiques. Et on a dans cette vitrine voulu ajouter deux petits coquillages qui sont en fait des conques assez grosses, dont une partie, une extrémité est évidée pour en fait bien montrer que à l'origine aussi les sons naturels de la nature permet donc de créer des mélodies. Et donc ces conques font penser à plus de 14 000 années de précédentes qui nous permet d'entendre la musique.
Oui, ça fait longtemps qu'on a découvert les vertus de la musique, n'est-ce pas? Eh bien, on va en écouter de la musique. Thank you.
Alors, à côté de ces instruments traditionnels, de toutes les époques et de tous les endroits, on a deux vitrines qui sont consacrées à des instruments tout à fait différents.
Oui, alors là, nous sommes au XXe siècle et il faut savoir que l'arrivée de l'électricité, en fait, ça va révolutionner le monde de la musique. Et on a voulu, par ces deux vitrines, mettre en avant des instruments, alors soit qui nous paraît iconique, comme une guitare Fender Stratocaster, voilà, des années 60, qui est vraiment la guitare de Jimi Hendrix. Et puis, un synthé, en fait, un des premiers synthés compacts, donc un mini-Moog, qui date donc des années 70, du début des années 70. Et à l'époque, c'était une révolution. Déjà, les synthés à cette époque étaient des grandes machines qui prenaient énormément de place. Là, grâce à ce petit modèle qui va être diffusé partout, donc qui vient des États-Unis, mais qui va être diffusé partout en Europe, va permettre en fait d'avoir des sons nouveaux et va être énormément utilisé pour des BO de films ou de la musique, voilà, comme les Beach Boys, ils vont aussi l'utiliser pour faire certaines variations. Donc c'est des améliorations qui vont se faire et arriver après se propager dans la musique.
Oui, et puis il y a également dans cette vitrine une guitare à résonateur.
Alors, il faut savoir que dans les années 1910-1920, les guitares n'étaient pas appréciées parce qu'on ne les entendait pas en fait, sous les cuivres dans les jazz bands. Et donc, on va chercher un moyen de la rendre plus audible. Donc, le banjo lui permettait d'avoir déjà une sonorité plus élevée. Et puis, cette idée de guitare à résonateur, donc avec des cônes en fait, qui sont à l'intérieur pour amplifier le son, va permettre déjà une première avancée dans l'écoute de la guitare à travers les formations musicales. Et puis, donc, débouchera vraiment dans les années 40-50 par la guitare électrique.
Et puis alors la dernière vitrine, c'est une vitrine qui est consacrée à des instruments qu'on va retrouver dans la musique de variété également et puis aussi dans la musique de cinéma.
Oui, alors nous avons présenté deux instruments qui sont assez étonnants. On a rarement l'habitude de les voir. Alors il y en a un, c'est un instrument d'une facture ici contemporaine, mais qui en fait est un thérémine. C'est un instrument qui a été créé dans les années 1920 par un Russe, Léon Thérémine. Et en fait, c'est un instrument que l'on ne touche pas. Tout se joue avec des ondes et à deux mains, il y a des antennes. Donc sur la main droite, ça va permettre de trouver la note, donc en la montant ou la descendant. Et avec la main gauche, donc une antenne plutôt en forme de boucle qui va permettre en fait de maîtriser le volume de l'instrument. Et ça fait des bruits qu'on dit assez proches de la voix humaine. C'est assez atypique et un peu désagréable, et c'est souvent utilisé dans des films d'horreur, c'est ça, ou des films de science-fiction pour faire des bruits voilà, un peu étranges, et c'est souvent associé aux extraterrestres. Il y a Tim Burton qui l'a beaucoup utilisé dans Mars Attack pour faire ces bruits voilà, des extraterrestres. Concernant le deuxième instrument, alors c'est un aquaphone. Celui-ci, il est aussi atypique. En fait, on met de l'eau dans un petit récipient au centre, et on va venir jouer en fait avec sur le pourtour les pics en laiton. En fait, ils sont de différentes tailles, de différents volumes, et ça va donner différentes notes. On peut venir avec un archet courbe. On peut même taper avec des baguettes. Et pareil, cet instrument qui en fait fait pas vraiment une mélodie en lui-même, mais qui permet de faire des effets, va être beaucoup utilisé au cinéma, notamment encore pour des films d'horreur ou de science-fiction. Voilà, ils font des bruits assez étranges dont on n'a pas l'habitude.
C'est pas le musée de l'horreur ici, juste une petite vitrine comme ça en passant. On écoute un peu de musique. Thank you.
C'était la musique de Justin Hurwitz, musique du film, d'un film sur la vie de Neil Armstrong qui s'appelle First Man.
Alors dans la deuxième salle de cette exposition, on va vers la musique mécanique mais déclinée dans différents endroits.
Oui, nous sommes au début du XXe siècle, en 1900, et on a voulu créer les différentes ambiances musicales qui règnent pour le
C'était
grand
la fin de, des forains de Henri Sauguet.
Avec ces énormes orgues limonaires qui étaient dans les manèges à chevaux. On a une partie aussi qui est consacrée à l'orgue de rue. On a notamment un piano à dos grec qui faisait 60 kilos, qui était donc porté avant d'être posé puis joué en pleine rue. Et en effet, on a un petit ariston, un petit hérophon qui montre aussi la musique à l'intérieur des foyers.
Eh bien, on va écouter un petit peu ce petit ariston. C'était notre soliste du jour, Marisa, qui nous interprétait. Il y a un titre ? Non ? Il n'y a pas de titre, c'est une petite valse,
voilà,
quoi, sur un instrument qu'on appelle l'ariston. Et puis alors, on va écouter un petit peu l'orgue limonaire. Si tu ne veux pas payer d'impôts, si je ne m'abuse, sur l'orgue limonaire de l'exposition de l'abbaye des Prémontrés.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors dans cette salle, nous avons aussi un instrument assez extraordinaire qui est en lien avec un Maharaja. Racontez-nous ça, Marisa.
Oui, c'est une boîte à musique qui est gigantesque. On associe ça souvent à quelque chose de petit. Ici, elle est très grande, elle est très belle avec des petites abeilles dorées. Et en fait, c'est une création qui s'est faite au 19e siècle pour un maharaja qui voulait un lit musical. Donc son lit était en or massif, ça avait été fait par Krisloff. Et donc cette boîte à musique se plaçait dessous et dès qu'on grimpait dans le lit, hop, ça déclenchait la musique. Et sur le pourtour de ce magnifique lit, il y avait des automates grandeur nature de femmes qui donc éventaient la personne qui était sur le lit.
Ah, on imagine très bien tout ça. Hein. Alors, une autre chose intéressante, c'est évoquer la maison Thibouville.
Alors oui, c'est une grande maison vraiment qui distribuait des instruments de qualité et pas très cher à travers le monde à la fin du 19e siècle. Et en fait, cette renommée avait été construite par donc Jérôme Thibouville, qui avait trois manufactures en France, dont une à Mirecourt, où vraiment on avait pensé à rationaliser, industrialiser la fabrication des instruments, mais pour en faire des choses au moindre prix, mais toujours de qualité, avec beaucoup d'innovation pour autant, puisqu'ils ont eu aussi aux expositions universelles des médailles pour récompenser le travail qui sortait des usines Thibouville.
Bien, et puis alors si on continue à déambuler, on va dans un endroit où là c'est de la musique un peu phonographique, on va dire, on peut appeler ça comme ça.
Oui, c'est vraiment une sorte de panorama de l'évolution des phonographes à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, puisque, en effet, à partir de la création des phonographes, on va avoir un champ musical qui va s'ouvrir, en tout cas pour le grand public, qui n'avait pas vraiment accès chez eux à l'écoute de la musique. Désormais, ça va être possible. Et on voit, en fait, parmi les formes, parmi la variété des supports aussi d'enregistrement et de leur évolution, que bah, c'est une histoire fascinante, en fait, qui démarre avec des petits phonographes, donc à la fin du 19e siècle, donc, où, en fait, les musiques sont enregistrées sur des cylindres en cire. Donc, c'est très fragile. Et en plus, on peut mettre qu'une musique. Donc, on a 4 minutes d'écoute, pas plus. Et puis, en fait, ça va se développer. On va arriver au disque dans les années 20. Et là, bien sûr, en fait, les disques vont permettre de révolutionner l'écoute de la musique parce que, en fait, on va déjà diminuer leur taille. Ça prendra moins de place à avoir chez soi. Mais aussi, en fait, ça, plus le disque rétrécit, en fait, plus on a de temps d'écoute grâce à la création des micro-sillons qui vont se faire. Et aujourd'hui, vraiment, avec le MP3, dont on n'a pas d'exemple, mais c'est vraiment, en fait, cette évolution qui nous amène aujourd'hui à nous, ce format dématérialisé qui, pour le coup, ne prend plus du tout de place.
Et alors, globalement, dans cette exposition, vous avez combien d'instruments ?
On doit en avoir autour de une soixantaine, mais qui ont été choisis. Enfin, c'est une sélection qui est intéressante parce que c'est vraiment des pièces de qualité et vraiment atypiques. Les gens sortent là surpris.
On écoute un peu de musique. Thank you. Donc, Marisa, on disait en début d'émission qu'à côté de l'exposition, il se passait ou il s'était passé un tas de choses fort intéressantes et diverses.
Oui, l'exposition est rythmée par un programme d'animation. Premièrement, donc les concerts, en effet, qui permettent de renouer aussi avec le passé du centre culturel qui était un lieu de spectacle important. Et donc, en début d'année, nous avons eu un concert de musique de chambre. Et puis, donc en juillet, c'est vraiment le jazz qui prend sa place avec donc Cédric Henriot. Et à côté de cela, on peut même s'initier à la musique avec un petit laboratoire musical qui est organisé tous les mercredis et dimanches à 14h. Donc ça convient aux enfants dès 4 ans et ça permet de regarder les instruments, notamment le violon et la guitare, de pouvoir les essayer, même si on ne sait pas jouer. Moi-même j'ai essayé, c'était catastrophique, mais c'était intéressant d'essayer.
Vous jouez bien de l'ariston.
Avec une manivelle, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ludique et ça permet aussi de voir les bois qui sont utilisés dans la lutherie, de voir leur sonorité, leur utilisation. Et il y a même un petit quiz pour reconnaître les sonorités. Donc c'est une animation familiale qui est très intéressante tous les mercredis et les dimanches. Le 14 juin, à partir de 18h30, donc on accueille le public pour une soirée privée au sein des salles d'exposition, donc autour d'un verre, et puis de concerts qui rythmeront un peu cet apéro-expo qu'on a voulu musical pour le coup. Donc ça permet de découvrir l'exposition de façon tranquille, avec aussi de la médiation volante qui permet d'approfondir certains points qu'on a évoqués juste avant, et puis d'avoir des moments comme ça d'écoute musicale donc dans l'abbaye en fin de journée. C'est très agréable.
Eh bien, écoutez, Marisa, on vous remercie. On rappelle que cette exposition à l'abbaye des Prémontrés se déroule jusqu'au dimanche 7 juillet. C'est ouvert tous les jours sauf le mardi, comme tout bon musée qui se respecte, de 10h à 12h, de 13h30 à 18h. On peut réserver ou on peut aller sur le site de l'abbaye des Prémontrés où on trouve toutes les informations.
Voilà, toutes les informations sont relayées sur notre site, oui.
Eh bien, merci, bonne fin de soirée à tous et à la semaine prochaine.